Bonsoir à toutes et à tous, c'est Du Grain à Moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Comme chaque été, la question migratoire revient au premier plan de l'agenda politique en Europe et en France. On a dépassé en juin le chiffre des 2000 morts en Méditerranée et la saison favorable à la traversée vient tout juste de commencer. Puisque la route depuis la Turquie est fermée suite aux accords entre Bruxelles et Ankara, une grande partie des candidats à l'exil passe par la Libye. Ce qui met l'Italie en première ligne. Elle a reçu 85% des 84 000 migrants et réfugiés arrivés en Europe. Au cours du premier semestre 2017, les réfugiés arrivent en Europe, bien sûr, par la mer. La pression est énorme, a répété le ministre italien de l'Intérieur Marco Minniti à ses collègues européens réunis jeudi dernier à Tallinn. Et le manque de solidarité patent, serait-on tenté d'ajouter. Il faut dire qu'en la matière, l'Union européenne définit les conditions d'entrée et de séjour, mais ce sont les États membres, qui gardent la main sur le nombre d'étrangers qui sont prêts à recevoir. En France, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, doit présenter le 12 juillet, mercredi prochain donc, en Conseil des ministres, un plan migration qui est à l'image des ambiguïtés européennes sur le sujet. Les déclarations d'humanité se heurtent aux politiques de fermeté. Alors migration, asile, l'impossible solidarité, c'est le sujet du grain à moudre d'été jusqu'à 19h, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. Et trois invités autour de la table ce soir pour discuter. Virginie Guiraudon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, associée au Centre d'études européennes de Sciences Po, et vous êtes une spécialiste justement des questions de migration en Europe. À côté de vous, Didier Lesky, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de l'OFI. L'OFI, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En quelques mots, l'OFI, c'est l'organisation qui est en charge de relocaliser, les migrants. Les réfugiés qui sont distribués par l'Europe.
Ce qui est en charge en particulier de ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire des centres d'accueil pour réfugiés, enfin pour demandeurs d'asile, pour être précis sur les termes. Aujourd'hui, 63 000 places. On était à 30 000 places au début 2012. Et qui verse aussi ce qu'on appelle l'allocation pour demandeurs d'asile à l'ensemble de ceux qui sont dans la procédure de demande d'asile jusqu'au traitement OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile s'il y a un désaccord avec la décision de l'OFPRA.
Et évidemment, il sera question de ces questions, il sera question de l'accueil et des difficultés en la matière et des progrès peut-être qui ont été faits depuis quelques années sur le sujet en France ou ailleurs. Et peut-être que Marilyn Baumard aussi nous éclairera sur ces questions. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre troisième invité ce soir. Vous êtes journaliste au Monde et vous êtes en charge de ces questions migratoires pour le quotidien du soir, selon l'expression consacrée. Alors, peut-être, je disais dans cette introduction qu'il y avait en quelque sorte une répartition des rôles entre l'Union européenne qui fixerait les règles et les États membres qui disposent en quelque sorte de la main sur qui ils sont prêts ou non à accueillir. Peut-être il faut être un tout petit peu plus précis. Pouvez-vous nous éclairer, Virginie Guiraudon, sur ces questions? Oui, excusez-moi, c'était une présentation, c'était un peu sommaire, mais vous avez la parole pour nous dire un peu plus précisément comment se répartit justement sur ces questions d'accueil les rôles entre l'Union européenne et la France, par exemple, ou les États membres.
Alors oui, il faut savoir que la question, enfin l'idée de répartir, donc c'était 160 000 personnes arrivées en Italie et en Grèce dans les autres pays de l'Union est très récente. Ça a été fait dans le cadre toujours de l'urgence, c'est prévu dans les traités, mais ce n'est absolument pas la politique européenne. La politique européenne en matière d'asile et de contrôle aux frontières, c'est essentiellement Schengen, donc toute une politique de contrôle des frontières extérieures qui fait que les gens arrivent plutôt par la mer qu'en prenant des avions avec des visas et des passeports en règle. Ça remonte, comme vous savez, Schengen, c'est en vigueur depuis 95. Et puis, c'est la convention de Dublin qui a été aussi signée en 90 comme Schengen et mise en œuvre quelques années plus tard, qui fait que c'est le premier pays où quelqu'un demande... arrive en Europe, qui doit examiner sa demande d'asile. Donc l'Europe a été essentiellement justement une politique anti-solidaire, puisqu'il s'agissait de renvoyer les demandeurs d'asile vers le premier pays où ils étaient arrivés, ce qui explique pourquoi l'Italie, entre autres, et d'autres pays, se retrouvent depuis quelques années à demander de l'aide. Et pour finir sur votre question, les États membres sont complètement responsables de leur politique d'asile, de leur procédure. Il y a des directives, mais très très minimales. Donc c'est bien les États, et évidemment aussi les villes maintenant, qui doivent se saisir de cette question.
Didier Lesky, puisque vous êtes, donc je le rappelle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et que vous êtes, donc on va dire, entre l'État français et l'Union européenne, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, est-ce que vous diriez, comme vient de le dire Virginie Guiraudon, que la politique est d'abord basée sur une absence de solidarité?
Je crois que l'intérêt de ce qui se passe, c'est de montrer les limites de cette construction européenne, c'est-à-dire de cet espace, comme on l'a dit, frontalier avec Schengen, comme on dit, et ce qui se passe concrètement à l'intérieur de cet espace. Nous sommes dans une situation qui est très différente d'un pays à l'autre et qui explique aujourd'hui la pression qui est en train de s'exercer sur la France, telle qu'on le voit, on l'a vu encore la semaine dernière à Paris. En gros, par exemple, pour dire les choses de manière très concrète, l'Allemagne a vu sur son territoire rentrer 1,2 million de personnes, 450 000 ont été déboutés de leur demande d'asile. 54 000 ont bénéficié de ce qu'on appelle une aide au retour volontaire, qui est quelque chose aussi qu'on fait en France. Et parmi ces déboutés, c'est le premier flux, eh bien beaucoup aujourd'hui viennent en France. Pourquoi il y a cette venue vers la France? C'est parce que dans cet espace géographique, Schengen, enfin politique, juridique, les procédures d'asile ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. En Allemagne, un Afghan est débouté de l'asile, plus d'un Afghan sur deux est débouté de l'asile. En France, 8 sur 10 obtiennent l'asile. Les Afghans qui ont été déboutés d'Allemagne, on les retrouve aujourd'hui à Paris, Porte de la Chapelle, et certains sont même restés plusieurs années en Allemagne, et donc on les voit, et les journalistes le font, dialoguer avec eux en allemand directement, ce qui prouve qu'ils étaient en Allemagne depuis un certain nombre d'années. Donc, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas eu de solidarité dans cette gestion, et je dirais même que dans ce qui s'est passé en Allemagne, eh bien, il n'y a pas eu de concertation et de discussion globale, et on peut le voir même quand on discute de Calais. Calais n'est pas une affaire franco-française ou franco-anglaise, si vous voulez. C'est une affaire européenne parce que c'est le débouché de l'espace Schengen. Et puis, on a un autre flux qui arrive avec d'autres types de personnes qui sont celles qui arrivent d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest, qui sont en train de passer par l'Italie et qui arrivent aussi en France. Parmi elles, il y a beaucoup de personnes, 57%, qui sont des personnes qui viennent de pays francophones, Guinée, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, qui sont d'autres types de migrants et qui aujourd'hui arrivent dans nos dispositifs. La difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas collectivement anticipé suffisamment les arrivées. L'OFI avec les préfectures, c'est une création de places ces derniers mois, entre 200 et 300 par semaine, pour permettre par exemple la sortie de ce qu'on appelle le centre de transit du Bois, qui n'est pas un centre d'accueil, mais un centre de transit, et qui permet de répartir l'accueil à travers l'ensemble de la France. Mais aujourd'hui, ce flux de création est tellement fort que les créations
ne suffisent pas
à suivre, alors que l'effort ces 5 dernières années a été indéniablement important et qu'il y a des initiatives diverses qui se sont fait jour.
Marilyn Bomard, on a pu lire dans Le Monde vos papiers, notamment en Italie, sur ces questions-là, un lieu qui subit particulièrement, le sud de l'Italie subit particulièrement ces flux en provenance de la Méditerranée, c'est vrai, et ça on le dit moins, c'est souligné à l'instant par Didier Lesky, que les flux sont aussi intra-européens, par le biais de Dublin par exemple, qui dit qu'il faut renvoyer les migrants à leur point d'entrée, et les déboutés qui se retrouvent aussi à circuler en Union européenne. Cette complexité, finalement, explique aussi la difficile solidarité?
Alors, oui, cette complexité peut l'expliquer, mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, chaque pays pense égoïstement en fonction de ses besoins, on peut dire besoins, quand on regarde l'attitude qu'a eu l'Allemagne, et puis en fonction de sa gestion politique du dossier. Parce que quand vous parlez d'augmentation forte, bon, pour la France, c'est quand même, ça reste quand même fort, avec des petites guillemets autour. Voilà, il n'y a pas vraiment une augmentation incontrôlable des flux. En tout cas, ce qui se passe, et ce que je trouve intéressant à voir, c'est qu'on a une Europe qui rêve de supprimer ce qu'on appelle ces mouvements secondaires. C'est-à-dire ces gens qui vont passer d'un pays à l'autre parce que l'Europe, en fait, elle rêve que les migrants, ils arriveraient dans des hotspots tout autour de l'Europe.
Hotspots, rappelez-vous.
Alors, voilà, dans des centres... Alors, on peut dire de tri, d'autres diront d'accueil, mais qu'en tout cas, on les contrôlerait à l'entrée en Europe, on leur mettrait une petite étiquette en leur disant dans quel pays ils vont aller. Voilà. Dans leur rêve, ça se passerait comme ça. Et puis ensuite, il y aurait plus ces mouvements à l'intérieur de l'Europe qu'on appelle mouvements secondaires et qui, effectivement, on le voit en France, sont le fruit des différences de taux d'octroi du statut de réfugié d'un pays à l'autre, ce qui est réel. Bon, après chaque pays dans tout ça gère un petit peu à sa façon. Et quand on parlait tout à l'heure du système d'accueil, en fait, les pays aussi gèrent avec des idées dans la tête qui sont vraies ou fausses, mais qui souvent sont fausses, qui souvent sont des idées reçues, et notamment la nouvelle idée à la mode aujourd'hui, qui avait disparu d'ailleurs depuis quelques années de France, hein, mais c'est que tout ce qu'on pourrait faire de bien pour l'accueil des gens, ça pourrait créer un appel d'air. Ouais,
c'est ce qu'a dit Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, récemment, quand il était à Calais. Mais j'aimerais que, avant de vraiment se pencher sur cette question de l'accueil, qu'on reste un petit peu sur ce cadre européen. Il y a pourtant, puisque la question a été posée, il semble que l'uniformisation du droit d'asile, en quelque sorte, soit un des objectifs possibles pour régler la question des déplacements secondaires et problème principal. En 2015, il y a eu un agenda européen en matière de migration et qui voulait ça, un contrôle, un aide au développement, une meilleure solidarité et uniformiser le droit d'asile. Ça n'a pas du tout marché, Virginie Guiraudon.
Alors, je suis désolée, mais les chercheurs travaillent depuis longtemps sur ces questions. En fait, l'uniformisation du droit d'asile, c'est un objectif qui a été, depuis 1997, traité d'Amsterdam, mis en œuvre en 99. Il y a eu quelques directives à minima. L'essentiel des politiques qui sont menées depuis ce moment-là, et encore plus depuis 2015, ce sont des politiques plutôt pour faire des partenariat pour la mobilité, ça s'appelle aussi des pactes, pour en fait travailler avec les pays.
Donc des approches bilatérales et pas des approches multilatérales, on pourrait
donc
dire.
Donc en fait, l'Union européenne essaie de négocier des accords de réadmission, déboutés ou migrants, avec des pays dits de transit ou d'origine. Après, on a vu aussi énormément de moyens donnés à l'agence Frontex, qui est maintenant corps européen des gardes frontières.
Je crois que ce sont deux choses différentes.
Ah bah non, pas du tout.
Votre question, c'était à l'intérieur de l'espace européen, y a-t-il une harmonisation
des politiques
d'asile ? C'est ça.
Oui, mais il ne peut pas y en avoir.
Je ne sais pas s'il ne peut pas y en avoir, mais en tout cas, je vous prenais l'exemple de ce qu'on appelle le taux de protection. Le taux de protection, et je vous prenais l'exemple des Afghans, puisque c'est aujourd'hui un problème majeur. En Norvège,
oui,
ou
qu'est-ce
en
qui
Suède,
fait que la moitié des Afghans soient déboutés en Allemagne et que les 8/10
Alors
vous
voilà,
disiez,
c'est justement le problème. Vous prenez en Norvège ou en Suède, un Afghan sur trois va obtenir l'asile. Parce que la Norvège, la Suède et l'Allemagne considèrent que l'Afghanistan n'est pas un pays insécure partout et considèrent qu'il y a des zones sûres. Et ça, c'est un des problèmes justement qu'on connaît au niveau de ce que Marine Bommard appelait les mouvements secondaires. C'est-à-dire, il n'y a pas en Europe, par exemple, une liste conjointe de ce qu'on appelle les pays sûrs et pas sûrs. Je vous prends un autre exemple qui est plus près et qui est peut-être plus parlant parce qu'il est encore à l'intérieur de l'Europe. Là, c'est le problème des Albanais. En Allemagne, les Albanais ne se voient jamais accorder l'asile et ils sont déboutés entre 48 heures et une semaine. En France, aujourd'hui, dans le dispositif national d'accueil, 20% des places sont consacrées à des familles albanaises qui se voient accorder l'asile.
15%, je crois.
Entre 15 et 20%, à un taux qui est entre 15 et 20%.
Enfin, comparé au 0% en Allemagne, forcément.
Voilà. Oui. Et donc, vous avez ce que ça s'appelle des mouvements secondaires, justement, parce que l'Europe n'existe pas en termes de valeur de manière suffisante pour pouvoir être en accord sur qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a besoin d'une protection.
Mais encore une fois, il y a des traités, il y a un agenda.
Non, mais attendez.
Marine Bommard d'abord et ensuite je vous donnerai la parole là-dessus.
Mais il n'y a pas que ça. Quand vous êtes par exemple localisé et qu'on vous dit vous allez demander l'asile en Estonie, alors par exemple l'Estonie, bel exemple, c'est un pays qui a fait un effort absolument incroyable pour accueillir. L'an dernier, ils ont accueilli 360 et quelques réfugiés. Record absolu chez eux. Sur les 360, il y en a 320 qui sont repartis vers l'Allemagne, vers la Suède. Pourquoi ? Parce que qui va choisir, en quel honneur on choisirait à leur place le pays dans lequel ils peuvent vivre, alors qu'il y a de telles différences de niveau de vie entre l'Estonie et l'Allemagne. On se met à leur place, mais voilà, il y a pas la, on ne leur propose pas la même chose. Donc comment voulez-vous, dans ce contexte, avoir un asile et quelque chose de commun ?
Les Allemands ont mis en place un mécanisme, par exemple, une fois qu'on obtient le statut de réfugié, qui est extrêmement contraignant, puisqu'on ne peut pas quitter le Länder où on a été affecté pendant 3 ans.
Virginie Guéraudon.
Oui, alors, sur les mouvements secondaires, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Marie-Anne Baumard. Quand on est sociologue d'immigration, il faut jamais oublier que même si on voit des images assez horribles, y compris dans les reportages de Marie-Anne Baumard, de gens en détresse, ces gens-là sont tout à fait acteurs de leur projet migratoire qui va effectivement être contraint, qui va être arrêté, et à cause des politiques européennes et nationales, ils vont attendre très 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 longtemps, mais il faut pas s'imaginer que pour autant ils n'ont pas encore des liens parentaux, une communauté, des opportunités qui font que mes réfugiés fuyant la guerre ou pas, ce sont des migrants quelque part comme les autres qui savent où ils ont envie d'arriver, quoi. Donc ce système, c'est typique de la mentalité de l'État, c'est comme ces notions qui n'ont aucun sens pour les chercheurs comme appel d'air, etc. Mais ils ont, c'est pour ça qu'effectivement ils vont pas forcément avoir envie de s'installer en Estonie. Sur le système allemand, alors ça je ne sais pas si vous avez su, mais aujourd'hui justement Dominique Versini et Anne Hidalgo ont envoyé un projet de loi aux parlementaires et au gouvernement, où elles reprennent un petit peu l'idée allemande qui existe d'ailleurs dans d'autres pays, depuis longtemps aussi au Royaume-Uni, et aussi en Italie, en Belgique, d'avoir une clé de répartition nationale, pour le coup. Alors c'est une idée intéressante, surtout quand on est évidemment à la mairie de Paris et qu'on doit gérer la situation à la Chapelle, quand on est près de Menton ou dans le Calaisie. Et effectivement, en Allemagne, une fois qu'on a obtenu l'asile, on doit rester 3 ans dans le même land, quelquefois dans certains lands, même dans la même ville. Ça pose un problème. Après, encore, on revient à la sociologie d'immigration. C'est ravissant de mettre des familles de Syriens dans la Creuse, sans permis de conduire, sans accès à l'emploi, etc. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ces questions, ce qu'on n'a absolument pas fait en France, puisqu'on a toujours été dans le déni que ces gens allaient rester. On a toujours espéré qu'ils se dispersent ailleurs.
Didier Lesky, vous diriez qu'on était dans le déni, comme vient de le dire Virginie Guéraudon. Donc, c'est des questions qui sont impensées aujourd'hui.
Alors, je ne dirais pas qu'elles sont impensées, elles sont difficiles, parce que notre territoire, sur le plan économique, est très différent de l'Allemagne. Nous avons un taux de chômage qui n'est pas pareil, et nous avons aussi des compétences...
On parle aussi de la démographie, souvent.
Des compétences État et des compétences décentralisées qui, parfois, empêchent la mise en place d'une politique cohérente. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a la nécessité de mieux articuler les politiques. Je pense, par exemple, à la question de la formation. Aujourd'hui, la formation, c'est une compétence des régions. Ce n'est plus une compétence État. Et c'est vrai que, du coup, la manière dont on va réinstaller ou pas, localiser ou pas ceux qui obtiennent le statut, puis on parle là de réfugiés, eh bien, doit être articulé à une vision de développement des territoires, c'est-à-dire une vision de l'aménagement. C'est ce qu'on commence à faire, par exemple, avec des programmes, avec l'AFPA, la formation de réfugiés, mais on a une autre difficulté qui fait qu'on a une spécificité par rapport à l'Allemagne, c'est que ceux qui sont déboutés en Allemagne, d'une certaine manière, ou qui ne sont pas pris en charge, ne sont pas les plus qualifiés. Et là, il y a eu un traitement différencié qui souligne encore le peu de solidarité européenne. Les personnes qui arrivent ici actuellement, qu'on voit à la Chapelle, sont essentiellement des jeunes hommes avec un niveau de qualification qui est très faible, afghans, soudanais, et où la prise en charge doit être considérablement renforcé, puisqu'il faudra à la fois faire du français, enfin de l'apprentissage, même parfois de leur première langue au sens de l'écriture, en même temps faire de la formation professionnelle, en même temps trouver des lieux d'accueil et qui, c'est vrai, soient suffisamment entourés par un tissu associatif, une société civile qui est beaucoup plus faible en France qu'elle ne l'est en Italie ou en Allemagne et qui permettra de leur stabilisation. Et ça, c'est difficile.
Très, très rapidement, juste Didier Lesky, justement, puisque vous parliez des lieux d'accueil. Quel est votre sentiment, vous, sur cette notion d'appel d'air qui a été dénoncée à la fois par Marie-Lyne Baumard et Virginie Guéraudon, cette notion d'appel d'air qui a été mise en avant notamment par notre ministre de l'Intérieur?
Écoutez, la réalité, c'est que des gens arrivent sans qu'on leur demande. Donc, du coup, si vous voulez, je ne suis pas certain qu'il y ait un rapport étroit entre conditions d'accueil et volonté de venir. Je crois que là, c'est un problème qui relève non pas de l'administration, puisque moi, je suis un administratif, je ne fais pas de politique, mais plus du côté de la politique et de l'appréciation politique des choses.
Oui, on n'a pas de
ou journalistique. Je laisse Marine Baumard dire ce qu'elle en pense.
Vous savez, quand, l'été dernier, j'ai passé 3 semaines sur l'Aquarius, et là, j'ai rencontré donc le bateau de SOS Méditerranée qui fait du sauvetage en Méditerranée. Et là, j'ai rencontré énormément d'Africains qui, en me racontant leur périple, m'ont réellement expliqué et convaincu. Ils n'avaient pas l'intention au départ de venir en Europe. Simplement, c'est des gens qui sont toujours poussés un peu plus vers le nord. Et puis, il y a cette fameuse Libye et son chaos. Et à un moment, plutôt que mourir d'une balle dans la tête en Libye, il y a moins de chances de mourir en mer encore. Et donc, ils viennent vers l'Europe pour cette raison. Mais il y en a énormément qui viennent sans vraiment l'avoir voulu. Donc, le concept d'appel d'air... je crois vraiment qu'il est à revoir.
Alors, puisque justement on parle de la Libye et que vous avez parlé des hotspots tout à l'heure, c'est-à-dire ces lieux où on trie les migrants pour les envoyer vers tel ou tel pays européen, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ce manque de solidarité dont on discute, toute cette question de la solidarité, une solidarité reportée, c'est-à-dire qu'on a essayé de sous-traiter aux marges de l'Europe la question de l'entrée des flux migratoires? On pense à la Libye, on pense à la Turquie, c'est-à-dire en plus des États qui sont quand même pas forcément très recommandables. Didier, est-ce que vous vouliez réagir? Est-ce que c'est pas un problème, cette façon qu'a l'Europe de sous-traiter la question à ses voisins?
Je crois que tout le monde a en tête un exemple ancien, mais qui par exemple a pu marquer les administrations, c'est celui de l'arrivée des réfugiés du sud-est asiatique, qui justement étaient en Thaïlande, et avec des ponts aériens, et on les faisait venir et on organisait l'accueil. Donc il y a un peu cette idée-là de on va avoir un endroit où on pourra préparer l'accueil. D'une certaine manière, c'est ce qui est fait avec des catégories très particulières de réfugiés, quand on, à partir des programmes en Jordanie, au Liban, un peu avec la Turquie, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné, et ce qu'on a fait avec les relocalisations. Mais ça, c'était déjà en Europe. Mais je crois qu'il y a ce schéma en tête. Ce schéma n'était théoriquement possible que si on avait, aux marges de ces crises, des États suffisamment stables pour être des lieux d'accueil. C'est le cas, par exemple, d'une certaine manière, du Liban, hein, mais qui est plus stable que la Syrie ou l'Irak.
Mais qui est en train d'être déstabilisé aussi par le très fort en termes d'accueil.
Les réfugiés représentent près d'un quart de la population libanaise. Comme des initiatives de Santé Gidio ou les couloirs qui ont été faits sont, de ce point de vue-là, si vous voulez, ce qui est rêvé en beaucoup plus grand. Mais je pense que le contexte de ces zones, manifestement, ne permet pas cela.
Virginie Guéraudon, sur cette façon qu'a l'Europe d'utiliser ses marges, en quelque sorte, d'expulser à ses marges la question de la gestion des flux migratoires.
Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, vraiment l'idée, mais très ancienne, hein, je parle du traité d'Amsterdam, où vraiment, c'est l'idée de contrôler à distance. Hein. Alors, j'ai parlé des visas, des passeports, mais surtout, quand les gens essaient d'arriver, vraiment qu'ils restent. On est en négociation avec le Maroc depuis maintenant une quinzaine d'années pour qu'il y ait un accord de réadmission. On est effectivement...
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une façon d'aider, de financer, par exemple, en Libye, les polissons frontières, de financer...
Alors, on fait de la formation, on donne de l'argent. Maintenant, alors, il y a une liste de 13 pays avec qui l'Union européenne est en négociation, donne de l'argent pour le développement, donne de l'argent pour la formation. Libye, Niger, Sénégal, Éthiopie, Mali, Jordanie, Liban, Iran, Égypte, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, et je m'arrête là.
Elle s'allongera.
Et il y a Maroc, évidemment, Algérie et Tunisie. Donc vous voyez que c'est toujours l'idée qu'il faut que les gens, si les gens arrivent, on a toujours peur qu'ils aient quelque part accès aux droits, qu'ils tombent sur un associatif,
un avocat, pire,
que ça soit plus difficile, excusez-moi, je finis ma phrase, de les reconduire, car la question de la reconduite à la frontière demande aussi la coopération, justement, des pays de transit et d'origine.
Marine Baumard, et après je laisserai Didier Lesky répondre.
Il est en train de se passer une chose intellectuellement très dérangeante, c'est qu'en fait, on essaie à l'intérieur de l'Europe de repenser le système de l'asile, d'en faire un joli paquet qui respecterait les droits de l'homme, ainsi de suite, qui serait comme ça parfait, sauf que ce qu'on dessine à côté, à travers justement tous ces accords bilatéraux, c'est un pourtour de l'Europe qui va essayer de réceptionner un maximum, qu'on va forcer à réceptionner un maximum de pseudo-réfugiés. Donc on aura notre joli système européen et en fait, ce sera, on veut créer une Europe sans réfugiés. Vous voyez la chose assez désagréable à penser, mais qui quand même est complètement en marche en ce moment.
Didier Leschi.
Non, mais sur les accords qu'on appelle les accords de flux migratoires, il ne faut pas oublier non plus que la France, c'est 160 000 titres nouveaux tous les ans. Hein, l'OFI, c'est 160 000 personnes accueillies dans les directions territoriales de l'OFI tous les ans et qui viennent justement de ces pays. Et puis après, on a des attitudes de certains pays qui sont tout à fait discutables. Le Maroc, à mon sens, en est un. On a eu une arrivée massive, importante en tout cas, de mineurs marocains où on avait une difficulté à faire prendre conscience aux autorités marocaines que ça ne pouvait pas être simplement un problème français, qu'il y avait là une sorte de trafic et qu'il fallait une coopération minimale pour voir exactement qui étaient ces mineurs, où sont leurs familles, comment on fait les choses. Et je crois qu'il y a quelque chose que souligne cette crise, c'est peut-être l'échec d'une politique qui avait été initiée par Jean-Pierre Chevènement, qui s'appelait celle du co-développement, c'est-à-dire de cette idée que on ne peut arriver à arrêter cet arrachement, puisque pour chaque migrant qui part, il y a une forme d'arrachement, que si on aide ces pays à se développer, c'est-à-dire qu'on soit plus rigoureux peut-être avec leur classe politique et plus rigoureux sur la manière dont on organise les rapports économiques de coopération avec eux. Et par exemple, quand on voit les personnes qui arrivent aujourd'hui en Italie, 57%, je l'ai dit, arrivent de Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et de la Guinée. Il y a là quelque chose qui est interrogé sur ces pays, leur dynamisme économique.
18h47 sur France Culture, même pas le temps de lancer un petit jingle, un petit indicatif, je le fais donc dans ma voix, vous écoutez du grain à moudre d'été. On parle migration ce soir, migration, asile, l'impossible solidarité, trois invités autour de la table. Marilyn Baumard qui est journaliste au Monde, Didier Leschi qu'on vient d'entendre qui est directeur général de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et Virginie Guiraud donc qui est directrice de recherche au CNRS, associée au Centre d'études européennes de Sciences Po et à qui je cède la parole immédiatement quand vous vouliez réagir.
Oui, non, c'est intéressant de prendre le cas du Maroc, surtout de la façon dont vous l'avez présenté. Le Maroc est un pays souverain et la France le gère encore comme un pays, j'ai envie de dire, on se croirait encore au temps des colonies. Il faudrait que le Maroc fasse ce que la France veut et l'Europe a la même attitude. Or, c'est un pays qui sait négocier, qui négocie avec l'Europe.
Empêcher le trafic de mineurs et d'enfants, c'est
oui,
pas
non, mais
simplement...
Justement, voilà, c'est une caricature, il y a beaucoup plus de choses en jeu, puisque en gros, l'idée c'est que le Maroc réadmette surtout des Africains issus du sud du Sahara, et c'est ça où les négociations avec l'Union européenne, et y compris les accords avec la France, sont en jeu, pas uniquement sur les mineurs. Mais ce que je veux dire, c'est que les pays du sud ne sont pas, il faut arrêter de les prendre comme des gens qui n'ont pas leur propre intérêt stratégique, leur propre politique. Certains d'ailleurs ont refusé la coopération avec l'Europe, je pense à des pays comme justement le Bangladesh, le Pakistan, en disant voilà, on va pas, c'est pas en nous donnant quelques cacahuètes qu'on va collaborer avec vous. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée encore aussi d'une asymétrie des relations internationales, que l'Europe pense que ça va être si facile. Ça n'a pas marché. La preuve, c'est qu'on n'aurait pas eu cette crise de 2015 sinon.
Excusez-moi Virginie Guéraudon, mais il y a forcément une asymétrie puisque les flux viennent d'un endroit vers un autre. Donc c'est forcément les États européens qui doivent négocier avec les États de départ les conditions éventuelles de retour quand c'est nécessaire.
Mais il faut qu'ils les considèrent comme des égaux dans les relations internationales.
Marine Baumard.
Oui, alors moi je voulais rebondir sur l'histoire des mineurs. Et c'est vrai que là on voit, les mineurs marocains, on en a vu effectivement à Paris. Il y en a à Calais, il y en avait la dernière fois où j'y suis allée. C'est vrai que c'est des enfants de 13 ans qui parlent espagnol en fait parce qu'ils sont restés longtemps en Espagne. Donc on n'ose pas imaginer à quel âge ils sont partis de chez eux et dans quel réseau ils peuvent se trouver. C'est des choses absolument incroyables. Et sur ces mineurs et ces jeunes gens toujours, et pour notamment ces pays d'Afrique, quand on va au sud de l'Italie, où j'étais il y a une quinzaine de jours, il y avait là-bas énormément de jeunes Africains qui, effectivement, étaient des migrants économiques, qu'on considère comme économiques. Mais ces jeunes garçons me disaient, moi j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, je suis partie en général, alors c'est pas une décision familiale là, c'est je suis partie sans le dire à ma mère. Souvent, le père est mort ou les choses sont compliquées. Donc je pars sans le dire et puis je vais tenter ma chance, je vais essayer d'avoir une vie, alors avec le rêve de devenir footballeur. Bon, il y en a un sur 1000 pour qui ça marche. On a vraiment cette idée. Alors s'ils attendaient d'être majeurs pour partir, partir, en fait, ils n'auraient pas l'asile, puisque c'est des migrants économiques. Donc, leur seul levier pour eux, et je pense que, au vu des chiffres et des taux aujourd'hui de mineurs qui voyagent seuls, mineurs isolés, je crois qu'on est là face à un véritable problème d'ampleur dont on ne prend pas vraiment la mesure.
Didier Lesky, c'est vrai qu'il y a un problème avec les mineurs. On l'a beaucoup entendu dire ces derniers temps, un problème humanitaire, ce qui pose la question, puisque mercredi prochain doit venir en Conseil des ministres une proposition du ministre de l'Intérieur sur ces questions d'asile et de migration. Ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on aborde ces questions. Est-ce qu'il faut les aborder d'un point de vue policier, comme ça semble être le cas depuis un certain nombre d'années en France et en Europe, ou est-ce qu'il y a quand même d'autres façons de l'aborder, même de façon pragmatique, pour prendre un terme à la mode?
Je crois qu'il faut l'aborder en termes de réciprocité, de responsabilité réciproque. On ne peut pas faire fi non plus de l'existence dans un certain nombre de pays de classes politiques corrompues, hein, dont la préoccupation de leurs ressortissants est quand même très faible. Hein. Et je pense que la question des mineurs marocains est quand même pas négligeable. Je veux dire, on n'a pas affaire à un pays sous-développé. D'une certaine manière, on a affaire à une économie qui existe, qui est prospère, à des autorités. Donc, laisser partir dans des réseaux de trafic d'enfants, hein, sans avoir une coopération économique, policière, sociale, pour éviter cela, je crois que ce n'est pas avoir une attitude de responsabilisation aussi vis-à-vis de ces pays. On pourrait parler du Sénégal, hein, ou d'autres pays où les questions se posent. Il y a des pays qui ont été effondrés, hein, à cause de nos interventions et pour lesquels, là, on a une responsabilité majeure, hein, et qu'il faut assumer puisque nous avons fait les interventions militaires qu'on connaît. Et puis, il y a d'autres pays où la question qui est posée, c'est certes aussi de la responsabilisation, hein, des autorités politiques. Et dire ça, ce n'est pas avoir un point de vue colonial ou post-colonial. C'est justement avoir un point de vue en disant on est égaux et il y a quelque chose qu'il faut construire ensemble, hein, qui est le fait qu'on habite tous ensemble autour de la Méditerranée d'une certaine manière, qu'on a une responsabilité aussi dans ce qui s'est passé précédemment et qu'on veut l'assumer en vous demandant aussi eh bien, d'être responsable vis-à-vis de vos ressortissants.
On a bien entendu les deux points de vue sur cette question de la réciprocité. J'aimerais qu'on termine dans les quelques minutes qui nous restent, peut-être en nous concentrant un tout petit peu sur la France, Marilyn Baumard. Qu'est-ce qu'il y a dans ce que va présenter le ministre de l'Intérieur mercredi? Est-ce que finalement ce qu'on a dit depuis le début de cette émission est pris en compte? D'ailleurs, est-ce qu'on sait à peu près ce qu'on a? Je vous pose la question parce que vous en avez dit quelques mots dans un article récemment,
je me permets de vous la poser à vous. Je vous donnerai pas dans le détail parce que j'en sais rien, j'aimerais bien savoir, mais j'en sais rien.
Oui, on
parce
le saura
que,
mercredi.
Voilà, on le saura mercredi. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y aura un volet renvoi parce que là, on est dans le en même temps, comme vous savez. Donc il y aura un volet renvoi qui sera assez conséquent avec aussi bien les Dublinés que les déboutés, puisque vous savez qu'on renvoie à peu près 3% des déboutés. Que,
les Dublinés, rappelons-le, c'est ceux qui tombent sous le traité de Dublin, c'est-à-dire qu'on renvoie vers leur pays d'entrée en Europe.
Le premier pays d'entrée en Europe. Et puis il y aura peut-être un volet humanitaire, un volet accueil. Le président l'avait annoncé, mais bon, il n'a pas un ministre de l'Intérieur qui surfe beaucoup sur cette notion. Donc on verra ce qu'il y a dedans. Il y a quand même un besoin de places d'accueil aujourd'hui, puisqu'on n'a pas, bien sûr, sous le quinquennat précédent, on avait augmenté de façon importante le nombre de places d'hébergement pour les demandeurs d'asile, mais ça n'est toujours pas suffisant. Les plans ne sont pas aujourd'hui tout à fait terminé, ceux qui avaient été annoncés sous le quinquennat précédent. Donc il y a des choses à rattraper, des choses à faire. Voilà, l'asile, des mesures pour que l'asile soit donné plus rapidement. Mais pourquoi on veut le donner plus rapidement? C'est pas le côté humanitaire qui le remporte.
Mis en avant quand même par les réfugiés et par les personnes qui les accompagnent, le fait d'attendre plusieurs années réponse.
Non, on n'attend plus plusieurs années. Hein. Ça, c'est... Non, on est à 13 mois à peu près. Ils veulent
passer
à 6 mois. Voilà. Pourquoi? Pour que les gens ne s'ancrent pas dans le pays et puissent être renvoyés plus facilement.
Didier Lesky, puisque vous êtes du côté de l'accueil, par rapport à ce que pourrait annoncer le ministre de l'Intérieur mercredi, j'ai presque envie de vous demander qu'est-ce que vous attendez, vous? Qu'est-ce que l'OFI peut attendre
de cette
nouvelle loi?
Bien sûr, d'augmenter le parc d'accueil, hein, indéniablement. On l'a fait beaucoup avec les centres d'accueil et d'orientation. Je pense que on a aussi la nécessité de multiplier ce qu'on appelle les centres provisoires d'hébergement, c'est-à-dire là où on peut accueillir les réfugiés pour les préparer à être autonomes dans la société française. Parce que la difficulté qui est paradoxale de l'accélération de la, du traitement de la demande d'asile, c'est que les personnes deviennent réfugiées, c'est-à-dire rentrent dans ce qu'on appelle le droit commun. Elles ne parlent pas le français difficilement, elles n'ont pas forcément de qualification professionnelle, elles n'arrivent pas à aller vers le logement de droit commun, et c'est une autre difficulté que nous avons, c'est aujourd'hui celle du logement. Dans le dispositif national d'accueil que gère l'OFI, il y a actuellement 12 000 réfugiés statutaires qui n'arrivent pas à sortir vers le logement. Et là, on a besoin d'une coopération réelle avec les collectivités locales, les offices HLM. C'est-à-dire, on a besoin d'une politique globale dans un contexte difficile, parce qu'en même temps, on a une crise du logement.
Virginie Guéraudon, on l'entend, renvoi, accueil sont un peu les deux axes d'une politique telle qu'elle s'annonce de la part du président Emmanuel Macron. On a quand même entendu récemment le défenseur des droits, Jacques Toubon, c'était le 14 juin dernier, alerter sur les atteintes aux droits fondamentaux les plus élémentaires dont sont victimes les exilés, notamment mineurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut attendre, selon vous, de ce projet de loi?
Alors, il n'y a pas du tout de « en même temps », sauf s'il y a un « en même temps », c'est-à-dire Monsieur Macron, quand il va à Bruxelles, dit qu'il faut accueillir les réfugiés. C'est notre honneur, je crois, qu'il a dit.
Et puis, le président de la République, il a peut-être un petit pouvoir en la matière.
Et Monsieur Collomb, le même jour, à Calais, dit qu'on ne va absolument pas rouvrir un centre. Il y a eu effectivement une décision du tribunal administratif de Lille entre-temps, le ministre de l'Intérieur, enfin le préfet, a fait appel. Donc ne respecte pas la décision du tribunal administratif, ne respecte pas les droits de l'homme les plus fondamentaux. Donc ils n'ont absolument rien lâché sur cette question. On a d'autres problèmes à gérer. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que les autres pays européens sont effectivement déjà à l'étape d'après. Le logement, l'apprentissage de la langue, aussi les soins psychologiques, psychiques dont ont besoin les réfugiés, y compris l'Allemagne. Alors là, je voudrais quand même dénoncer vraiment quand j'entends l'Allemagne accueille des réfugiés parce qu'ils ont des problèmes démographiques et qu'ils ont de la croissance, c'est une ineptie, c'est faux.
Donc ils en ont débouté 450 000.
C'est faux.
Mais ils ont quand même choisi les plus diplômés.
Pas oui, ça, c'est vrai. Tous les réfugiés qui arrivent en Allemagne ne sont pas des ingénieurs ou des médecins prêts à travailler du jour au lendemain. Alors il faut arrêter de dire ça. Il y a des pays beaucoup plus, dans une situation beaucoup plus difficile, y compris en Italie, qui ont fait des choses très intéressantes pour loger y compris ceux qui arrivaient, en changeant la loi sur les squats, avec beaucoup d'initiatives locales. Je pense qu'en France, pour faire du benchmarking et pour être pragmatique, pour reprendre la novlangue d'une nouvelle présidence, il faut regarder ailleurs. Il y a des choses qui se font, et là on est d'accord, le logement en priorité.
Rapidement, Marilyn Bobard, on est particulièrement en retard en France ?
Alors, on est en retard sur un point qui est l'intégration, effectivement. Et j'espère qu'il y aura un volet sur ce sujet, puisque c'est quelque chose d'absolument essentiel si on veut ensuite pouvoir accueillir d'autres migrants. Parce que si on n'intègre pas, évidemment, ça ne peut pas marcher.
Ah, vous lancez l'intégration alors que l'émission est terminée. Didier Leschi bout sur sa chaise, évidemment, parce que c'est une question qui vous intéresse particulièrement.
Oui, parce que je pense que l'intégration, ça ne peut pas être une injonction, c'est un processus long. Et on a tendance aujourd'hui, dans le vocabulaire, même journalistique, à en faire une injonction immédiate, un peu comme
l'injonction, c'est quand même qu'il faut qu'il y ait des moyens, par exemple, en enseignement des langues, et que vos 200 heures à l'OFI ne sont peut-être pas suffisantes pour que les gens puissent maîtriser la langue suffisamment pour pouvoir s'intégrer.
Je partage cette idée.
Très bien, voilà. On se quitte sur un accord. Merci beaucoup à tous les trois, Virginie Guéraudon, Marilyn Bobard, Didier Leschi. Toutes les références vous concernant sur notre page du Grain à Moudre d'été. Merci à Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferret, Cédric Fuentes et Juliette Monti qui m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation ce soir, Anne-Laure Chanel, à la prise de son, Anthony Thomasson.